seconde régularité, vous voyez, c'est une seconde régularisation. Qu'est-ce que sera mon troisième point singulier? Mon troisième point singulier se déterminera, ce sera une autre détermination, se déterminera de la façon suivante, point situé en dehors de la droite AB, par lequel je me propose de mener une parallèle à AB. Ce sera une autre régularité. Vous voyez que les régularités sont infinies. Car à partir de ce point, je pouvais aussi bien me proposer de porter une séquence. Ça va? Bon, je m'en tiens à mes deux séries. Vous voyez que, pratiquement, je peux concevoir peut-être une infinité de séries. Mes deux séries, elles sont dans quel rapport ? Convergentes ou divergentes ? C'est-à-dire même famille ou famille différente. En d'autres termes, voyez déjà que dans ma régularisation triangulaire, j'ai en fait trois séries. Mais ces trois séries, précisément parce qu'elles sont convergentes, je peux les considérer comme une seule série. Je passe à l'autre régularisation. Je la traite aussi comme une série. Quel rapport entre les deux séries? Est-ce que je peux prolonger l'une dans l'autre? J'en sais rien d'avance, peut-être, peut-être. Quelles conditions? À condition de constituer une troisième série qui englobe les deux précédentes. Eh bien, vous connaissez. Si vous vous rappelez votre géométrie élémentaire, vous connaissez. À quelles conditions les deux séries vont se prolonger? La réponse, elle n'est pas donnée. Peut-être qu'elle ne se prolonge pas. Dans certains cas, elle ne se prolonge pas. Elle se prolonge à condition que vous introduisiez une nouvelle régularisation. Ce sera quoi? C'est si vous vous servez d'un des sommets du triangle pour élever la parallèle au côté opposé. Ce sera la condition sur laquelle vous démontrerez que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits. Vous aurez fait converger vos séries. Bien. C'est parfait. On a presque tout trouvé, vous savez. Je veux dire, on ne peut pas se tromper dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Et eh bien voilà, un énoncé c'est une régularité. Foucault le dit explicitement. Un énoncé c'est une régularité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il régularise? Il régularise des points singuliers. C'est pour ça que c'est une régularité très particulière qu'on a appelée régularité facultative. Il régularise des points singuliers. Régulariser, ça veut dire constituer une série qui va du voisinage d'un point singulier au voisinage d'un autre point singulier. Ces séries peuvent être multiples. Il y aura autant d'énoncés que de séries. Est-ce que ces énoncés convergeront? pas de réponse toute faite. Faut voir. Oui, si les séries convergent. Non, si les séries divergent. On l'a vu à propos de qu'est-ce qu'une famille d'énoncés. S'il y a convergence des séries, les énoncés seront de la même famille. D'autres termes. Voilà que l'énoncé est une régularité. Mais l'émission des singularités, elle, c'est pas un énoncé. La pure émission de singularité, c'est pas un énoncé. L'énoncé la suppose. S'il n'y a pas d'émission de singularité, il n'y a pas d'énoncé. Autre chose d'étrangement semblable et quasi identique, qu'est-ce que c'est ? L'énoncé renvoie à autre chose d'étrangement semblable et quasi identique. C'est l'émission de singularité. Et en effet, mes points singuliers indéterminés sont étrangement semblables et quasi identiques à ce que sera l'énoncé. L'énoncé ne fait qu'ajouter une ligne régulière allant du voisinage d'un de ces points au voisinage de l'autre point. En d'autres termes, l'énoncé contient le quelque chose d'étrangement semblable et quasi identique. Et pourtant, ce quelque chose est bien autre chose que l'énoncé. L'énoncé, c'est la régularité, c'est la série. Tout énoncé sériel. Par parenthèse, c'est une grande confirmation de l'espèce d'antistructuralisme, puisque Foucault n'arrêtera pas, de vouloir substituer le point de vue des séries au point de vue de la structure. Dès lors, vous voyez que il nous propose une solution complètement différente. AZERT sur le clavier de la machine, c'est pas du tout ce que désigne l'énoncé. AZERT sur le clavier de la machine, c'est les singularités que l'énoncé va incarner. C'est l'émission de singularité. Quand je recopie AZERT sur la feuille de papier, mais je fais bien autre chose que recopier, et je fais bien autre chose que désigner ce qu'il y a sur le clavier. Je régularise les singularités. Je fais ma série. Même chose pour la poignée de lettres tirée là au jeu du Scrabble. Et quand je recopie, je fais autre chose que désigner. J'incarne des singularités, je les régularise. En d'autres termes, la petite différence, l'autre chose, j'appelle petite différence, autre chose qui peut être étrangement semblable et quasi identique, la petite différence ne passe pas entre l'énoncé et ce qu'il est censé désigner, ni entre l'énoncé et ce qu'il est censé recopier, mais entre la régularité qu'il constitue par lui-même et les singularités qu'il incarne. Qu'il actualise. Alors, Voilà. Vous vous reposez. Je veux dire, ça, il faut que ce soit. Il faut que ce soit limpide. Ce qu'il a fait, c'est... Il a fait quelque chose de formidable, à mon avis. Il a, au sein d'un système éculé, qui est celui de la représentation, de la copie, de la désignation, de la signification, du signifiant, il a érigé une espèce de dimension verticale qui redistribue tout. Il a fait une nouvelle distribution. Alors évidemment, ce qui est troublant, c'est qu'il ne dégage pas tellement si explicitement, autant qu'on le souhaiterait, cette notion de singularité. D'une certaine manière, c'est parce qu'elle lui est trop proche. Et on verra, je veux dire, il faut attendre, on verra, à mon avis, dans toute son œuvre ensuite, et à des niveaux très différents, qui seront plus ceux de l'énoncé. La notion de singularité est fondamentale, et pour une raison très simple, c'est que c'est l'élément des multiplicités. Une multiplicité, c'est un ensemble de singularités. C'est une émission de singularité. Et toute sa haine de l'universel, et toute sa critique de l'universel, il me semble, reste incompréhensible. Si l'on ne voit pas ce qu'il veut dire, à savoir que les choses procèdent par singularité. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le développe pas? Parce que moi je crois, parce qu'il peut considérer que c'est une notion acquise en mathématiques et en physique. Voilà, je voudrais que vous méditiez en vous-même, parce que si ce n'est pas absolument clair, je recommence. Je recommence, tout le reste en dépend. Alors vous donnez 2 minutes, pas de repos, mais 3 minutes de réflexion intense. Ce qui me paraît très très curieux, c'est que ça a l'air d'aller de soi. Mais vous savez, si vous voulez éviter, il faut absolument comprendre en quoi ça n'a plus rien à voir avec un rapport de désignation. Si je dis l'énoncé est une régularité qui incarne ou actualise des points singuliers. Il faut que vous compreniez qu'on sort immédiatement la conception sérielle de l'énoncé. Avec en plus tous les problèmes. 2 énoncés étant pris, est-ce que vous pouvez dire qu'ils sont de la même famille ou pas? Eh bien, ils seront de la même famille si vous pouvez prolonger les séries de l'un dans les séries de l'autre. Si vous ne pouvez pas, ils ne seront pas de la même famille. Vous voyez, tout en dépend, c'est finalement une construction verticale et plus du tout une construction. Vous avez les singularités. Là, vous pourriez même les mettre dans une espèce de ciel, on va voir en quel sens. Et d'ailleurs, les singularités sont dans une espèce de ciel. Simplement, ce n'est pas des idées universelles qui sont dans le ciel, c'est des points singuliers. Des petites étoiles, là. Alors, cette construction verticale, vous avez vos singularités indéterminées. C'est une espèce de platonisme de la singularité. Et puis, vous avez les énoncés qui les actualisent, qui les incarnent en constituant des séries de points réguliers qui vont du voisinage d'une singularité au voisinage de l'autre. Et qui peuvent y aller de manière multiple. Réfléchissez. Si tout énoncé, là, ce que je viens d'essayer en effet de montrer, c'est que tout énoncé était une courbe, qu'on pouvait très bien tirer la réciproque de la formule de Foucault. Une courbe est un énoncé. Mais inversement, tout énoncé est une courbe. C'est une courbe quoi? Qui unit des singularités. Mais rien ne me permet de dire que toutes les courbes sont convergentes. Si elles ne sont pas convergentes, je ne peux pas dire l'ensemble des courbes et convergent. À ce moment-là, j'aurais des familles irréductibles énoncées. C'est pas du tout sûr que toutes les séries se réunissent en une seule série, même infinie. Pas de remarques. Ah oui, mais les exemples politiques, ah ben on va y venir tout à l'heure. Ouais, les exemples politiques sont constants aussi, mais là je ne peux pas le donner parce que là, je ne peux pas le donner encore. Mais je vous promets, je vais le faire. En effet, on va faire un schéma de courbes non mathématiques. De courbes. Oui, c'est juste. Mais je ne vais pas sortir tout de suite des mathématiques parce que j'en ai besoin. J'en ai un peu besoin. Car il y a un grand philosophe des mathématiques qui s'appelle Lautmann. L-A-U-T-M-A-N. Et dans un livre de Lautmann, je tombe sur ceci. Il commente un texte célèbre de Poincaré. Sur les courbes, texte de Poincaré qui s'intitule « Sur les courbes définies par une équation différentielle ». Peu importe, équation différentielle, on n'a même pas besoin de comprendre. Vous allez voir comment on peut très bien lire des mathématiques, même de très haut niveau, sans rien comprendre. Plutôt c'est une raison d'être encore plus modeste parce que mais vous pouvez sentir sans avoir fait de mathématiques que c'est essentiel pour la philosophie. Voilà ce que dit Lautmann. La théorie des équations différentielles met en évidence deux réalités absolument distinctes. Alors, je comprends encore. Hein. Bon, on vous annonce que les équations différentielles suscitent deux réalités hétérogènes, absolument distinctes. Il y a le champ de direction et les accidents topologiques qui peuvent lui survenir, comme par exemple l'existence de points singuliers. Il dira un peu plus loin, existence et répartition des singularités dans un champ de vecteurs défini par l'équation différentielle. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Mais quand on comprend rien, mais il n'y a pas besoin. Existence et répartition de singularité, mettons. Bon, singularité, je fais vraiment l'entreprise de compréhension minimale. Des points sur un plan, comme j'ai fait mes trois points. J'ai réparti des singularités, je les ai fait exister, je les ai répartis. Dans un champ de vecteurs défini par l'équation différentielle. Champ de vecteurs, il apparaissait où le champ de vecteurs? Il apparaissait quand j'ai eu à choisir entre deux organisations de ces singularités. Est-ce que j'allais les prendre chacune par rapport aux deux autres? Ou est-ce que j'allais prendre la troisième par rapport aux deux autres seulement? C'était deux champs de vecteurs différents. Vous voyez, je n'ai pas besoin de commenter champs de vecteurs, j'ai juste besoin de m'y reconnaître. donc j'ai une existence et répartition de singularité dans un champ de vecteurs. Voilà une chose. Et Lautmann, avec Poincaré, nous dit, maintenant il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est la forme des courbes intégrales. Hein, si peu vous sachiez, vous savez que son rapport, le calcul différentiel, et le calcul intégral. On nous dit, il y a l'existence et la répartition des singularités, ça c'est l'affaire de l'équation différentielle. Mais attention, la forme des courbes intégrales, elle, elle est relative à quoi? Non pas à l'équation différentielle, mais aux solutions de cette équation. Bon. Et qu'est-ce que c'est la forme des courbes intégrales? C'est ce qui détermine les singularités. Et c'est le grand thème de Poincaré dans ce mémoire. Les singularités existent et sont réparties dans un champ de vecteurs, mais comme point indéterminé. Les singularités reçoivent leur détermination des courbes intégrales qui passent à leur voisinage. Et tout dépend ce que fait la courbe intégrale au voisinage. Et j'ai qu'à reprendre mon exemple, qui lui était rudimentaire, se révèle au moins tout à fait consistant à cet égard. Je dirais, dans mes deux cas, j'ai pas du tout les mêmes lignes intégrales. Si bien que, dans mes deux cas, les singularités ne sont pas déterminées de la même façon. Puisque dans un cas, elles sont déterminées dans un triangle, que j'appellerais figure intégrale, qui passe au voisinage de mes trois singularités, dans l'autre cas, j'ai tout autre figure, les parallèles. Que les deux séries s'enchaînent et se prolongent en une même série, c'est possible, mais ce n'est pas mon affaire pour le moment. Ce sera, car en effet, il faudrait une troisième série pour qu'elle se prolonge. Ça, on l'a vu. Et en effet, là-dessus, Poincaré fait sa grande, suivant la forme des courbes intégrales qui passent au voisinage des points, les points vont être déterminés. Et je relis Lautmann. Poincaré distingue, là les mots sont très jolis, c'est des noms que prennent les singularités quand elles sont déterminées par les courbes intégrales qui passent à leur voisinage. Et il distingue les cols d'une singularité déterminée, les nœuds, les foyers et les centres. Les cols, les nœuds, les foyers et les centres. Les cols se définissent par ceci. Les cols par lesquels passent deux courbes définies par l'équation et deux seulement. Donc, deux courbes et deux seulement. Les nœuds où viennent se croiser une infinité de courbes. Infinité de courbes. Les foyers autour desquels les courbes tournent en s'en rapprochant sans cesse à la façon de spirale. Les centres autour desquels les courbes se présentent sous la forme de cycles fermés. Bon, peu importe, vous voyez, on pourrait baptiser les singularités suivant les besoins, et on devra les baptiser. Quand, toujours, quand la forme de courbes intégrales ou d'équivalent de courbes intégrales passe à leur voisinage. C'est seulement à cette condition que les singularités se déterminent ou sont déterminées. Et en effet, si je reviens à mon histoire, là, je recommence ma pure émission de singularité. Là. Là. Trois singularités indéterminées. Supposez même, faisons mieux, je fais une émission avec une seule singularité. Mais ça ne me dit rien de l'allure qu'aura la courbe qui passe au voisinage. Voilà, j'écrivais, ma singularité là est déterminée comme sommet. Mais on peut concevoir un autre cas. Joli même. Hein? Je peux concevoir encore un autre cas. Ce qui compte pour moi, c'est que la singularité dans ces trois cas sera déterminée de manière différente, suivant l'allure de la courbe qui passe au voisinage. Conclusion, un énoncé, c'est pas une structure, c'est une fonction. C'est une fonction. Fonction qui consiste en quoi ? Régulariser les singularités en traçant la courbe qui passe au voisinage de ces singularités. Et je vois que c'est très compliqué, que de ce que l'énoncé est une fonction, je peux conclure ou je peux même déduire immédiatement que l'énoncé est sériel. Avec la question, encore une fois, jusqu'où va se prolonger une série ? D'où le problème que pose Foucault dès le début de l'archéologie, dès l'introduction de l'archéologie du savoir, et l'intérêt profond qu'il éprouve pour l'histoire moderne en tant que l'histoire moderne, au moins sous un de ses aspects, sous l'influence de Braudel, a construit toute une méthode dite sérielle. Établir des séries de portée et de temporalité variables. Une fois dit, toutes ces lieux spatio-temporels. Mais là, quand même, ça me trouble. On vient de distinguer deux dimensions. Il va de soi que l'une n'existe pas indépendamment de l'autre. Finalement, les singularités sans la courbe intégrale ou une courbe intégrale qui passe à leur voisinage restent indéterminées. Inversement, pas de courbe qui ne passe au voisinage de singularité. Donc l'un est dans l'autre. Ça n'empêche pas qu'ils diffèrent en nature. Les deux diffèrent en nature. Ils n'existent pas l'un sans l'autre. Il y a présupposition réciproque, il y a tout ce que vous voulez. On retrouve tous nos thèmes de tout ce qui reste. Il y a présupposition réciproque, oui, mais il y a quand même différence en nature. Il y a immanence, oui, et pourtant il y a hétérogénéité. Alors ce qui m'intéresserait, ce serait quand même d'arriver à en dire un peu plus sur les singularités indéterminées comme telles. Qu'est-ce que je peux dire ? Sur elle. Qu'est-ce que je peux dire d'elle ? je peux même pas dire en quoi il consiste. Je ne peux pas dire c'est les sommets d'un triangle, puisque ce qui les constitue comme sommets d'un triangle, c'est la régularité qui les incarne. Mais en elle-même, est-ce que je peux dire quelque chose? Qu'est-ce que je peux dire de Hazard sur le clavier? Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de Hazard sur le clavier? Alors, j'ai essayé, parce que là, c'est beaucoup plus délicat que les mathématiques. Je vous assure, j'ai tout fait. Je voulais un manuel de dactylographie. J'ai été jusqu'à téléphoner à Pigier. Bon, ils sont plutôt désagréables. Il fallait absolument. J'ai demandé à parler à un professeur de dactylographie. Tout ça. Enfin, j'aurais dû y aller moi-même. J'ai rien. Alors, c'est des hypothèses que je suis forcé de faire. Des hypothèses. Mais n'importe quel dactylo, c'est fait. Si quelqu'un d'entre vous, de toute manière, ce que je vais dire est faux, mais c'est facile à corriger. Vous mettrez la vérité et si vous la rencontrez à la place de ce que je dis, mais ça ne changera rien, strictement rien. Moi je me dis, Hazard, bon, pourquoi sur les machines françaises, Hazard? Vous voyez, je parle de Hazard sur le clavier, donc je me mets au niveau pure émission de singularité. Ça dépend de quoi. Dans le cas des lettres du Scrabble, là c'est très simple. C'est très simple. Parce que, je dirais, c'est une émission au hasard. Il y a un rapport entre les lettres que je tire. Ce rapport, je dirais, c'est un rapport aléatoire. Bon, vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Mais un rapport aléatoire, c'est un rapport de force. Tirer des lettres au hasard, c'est un rapport de force entre ces lettres. Si je tire des lettres au hasard, j'ai par exemple A, K, E. Je ne peux pas dire que ces lettres soient sans rapport. Elles ont un rapport au hasard. Le rapport au hasard est un rapport de force entre lettres. Je retiens ça, juste, on va voir est-ce qu'il y aura quelque chose à en tirer. Bon. La machine française dit Hazard. À mon avis, c'est là où je mets, où je suis prudent, faute de renseignements, puisqu'on n'a pas voulu me les donner. À mon avis, il faut tenir compte. Je ne peux pas dire que A, Z, E, R, T soient sans rapport. Il y a bien des rapports. Quels sont les rapports cette fois-ci? Ce n'est pas des rapports de hasard. Je crois qu'il faut tenir compte de deux choses, si l'on veut comprendre le clavier d'une machine à écrire. Il faut tenir compte de rapports de fréquence. Ou d'attraction, ça revient au même. Rapport de fréquence de groupe de lettres ou d'attraction d'une lettre par rapport aux autres. Là, les linguistes ont fait pour chaque langue des études très poussées sur le pouvoir d'attraction d'une lettre sur les autres et sur les fréquences de tel ou tel groupe de lettres dans une langue. Par exemple, WH a une fréquence haute en anglais. La fréquence en français est nulle. G. La lettre G en français, elle attire quoi? Elle attire avec une fréquence relativement grande U et N. Peu importe si c'est vrai ou faux, hein, tout ça. Bon. Les lettres vont se répartir sur le clavier. le dactylographe. Est supposé atteindre l'idéal, c'est-à-dire taper avec deux mains. Remarquez que c'est déjà un champ de vecteurs. Le clavier a deux moitiés. Le clavier, il est vectorisé. Il est vectorisé en deux moitiés. À la frontière fluente, mais une moitié gauche et une moitié droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que si vous avez une lettre, je suppose tout ça, si vous avez une lettre, si vous avez par exemple deux lettres de haute fréquence, mettons, accordez-moi, si c'est pas ça, c'est autre chose, G et U, c'est-à-dire lorsque vous avez un G, il y a des chances considérables, ou un grand nombre de cas, où la lettre sera suivie par un U. Il est évident qu'il est bon de distribuer le G et U dans les deux moitiés. Car, si vous mettiez par exemple, vous voyez votre clavier à étage, si vous mettiez le G ici et le U juste en dessous dans l'autre moitié, dans la même moitié, il faudrait taper avec le même doigt G et U, perte de temps considérable. Donc, c'est des facteurs temps, rapport des deux mains, de l'écartement des doigts et rapport de fréquence propre à une langue entre lettres qui va déterminer votre émission de singularité constitutive du clavier. Accordez-moi que je peux appeler ça, cet ensemble. Rapport des mains, rapport des doigts de chaque main, rapport de fréquence, rapport d'attraction des lettres. Je peux appeler ça les rapports de force entre lettres et doigts. Rapport de fréquence des lettres et rapport dynamique des doigts. Je dirais, voilà ce qui préside à l'émission des singularités sur le clavier. Voilà ce qu'aurait dû me répondre Pigier. Bon. Là-dessus, l'énoncé, dit Foucault, c'est la régularité. C'est-à-dire, dès que, ne serait-ce que fictivement, ça peut être complètement fictif, dès que je fais passer une courbe, une intégrale, qui va du voisinage d'une singularité à une autre singularité, même si ça suit le même ordre que le clavier, même si j'ai l'air de recopier Azert, je fais un énoncé, puisque j'ai incarné les singularités dans une intégrale. Pourquoi le premier Azert n'est pas un énoncé, le deuxième Azert est un énoncé? C'est que le premier Azert envisage la pure émission de singularité dans un champ de vecteurs défini par les rapports de force. Le second Azert incarne ces mêmes singularités dans des intégrales, ne serait-ce que des intégrales fictives. J'ai intégré les rapports de force. Et j'ai ainsi constitué un énoncé. Si vous comprenez ça, on tient tout. La transition du savoir au pouvoir. Car qu'est-ce que Foucault appellera pouvoir? Ce qu'il appellera pouvoir, là, c'est le moment de le dire une fois pour toutes, non, on le répétera très souvent. Ce qu'il appellera pouvoir, c'est tout rapport de force, quel qu'il soit. Simplement, il n'appelle pas rapport de force n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un rapport de force pour Foucault? Ça, c'est très important. Mais Une lettre a un pouvoir sur un autre. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez rien à la philosophie politique de Foucault. Une lettre a un pouvoir sur un autre. Ou elle n'en a pas. Une lettre aura un pouvoir d'attraction sur une autre lettre. G a supposé que G commande U à haute fréquence. Ou M a supposé qu'en anglais, W commande H à haute fréquence. Vous direz, W a un pouvoir d'attraction. Bon. Tout rapport de force est pouvoir. Et le pouvoir consiste uniquement dans un rapport de force. Deux termes entre lesquels il y a rapport de force, vous pouvez dire, l'un exerce un pouvoir sur l'autre ou tous deux exercent réciproquement un pouvoir l'un sur l'autre. Comment passe-t-on du savoir au pouvoir ? On a notre réponse, au moins. On passe du savoir au pouvoir dans la mesure où l'énoncé forme du savoir est une intégrale, opère l'intégration de singularité, et c'est seulement à la fin qu'on s'aperçoit que ces singularités comme telles entretenaient les unes avec les autres des rapports de pouvoir, des rapports de force. En d'autres termes, le savoir est l'intégration des rapports de force. Au sens le plus général qui soit, rapport de force entre choses, entre personnes, entre l'être, entre lumière, entre ombre et lumière, entre tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi Foucault pourra faire une ontologie politique. Je dirais, nous sommes en mesure maintenant de distinguer les rapports de force qui constituent le pouvoir et les relations de forme qui constituent le savoir. Les relations de forme sont les allures de courbes intégrales qui actualise, et qui actualise quoi ? Qui actualise les singularités, lesquelles singularités entretiennent entre elles des rapports de force. D'où devient particulièrement urgent la réclamation de tout à l'heure, un autre exemple que mathématique. Ou que linguistique, remarquez qu'on en a donné un autre, un exemple linguistique avec Azert, où l'on voit que les lettres exercent l'énoncé varient dans des rapports de force, que l'énoncé va régulariser. Ça va, ça me paraît très très extraordinaire, cette conception-là, si vous voulez, c'est... Si on me demande, d'ailleurs, il y a tellement de choses très nouvelles chez vous. Un des points de nouveauté les plus forts, c'est cette analyse. C'est cette analyse qui me semble vraiment très, très extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce que... vous vous reposez un peu. Alors, quelqu'un vient de faire une remarque très juste. Il dit, c'est très joli, mais si on introduit déjà le champ de vecteurs au niveau des singularités, c'est-à-dire si l'on prend déjà les singularités dans des rapports de force, mais c'est presque la même chose que les prendre au niveau des courbes intégrales qui passent au voisinage. C'est pas faux. C'est très, très là. L'incarnation est très... ça n'empêche pas que les rapports de force, c'est pas encore l'allure des courbes qui passent au voisinage. Mais qu'il y ait une espèce d'entrelacement des deux. Mais l'allure des courbes, elle ne sera pas définie par des rapports de force. Bien plus, voyez bien que lorsque j'invoquais les rapports de fréquence, par exemple, entre l'être dans une langue donnée, ou les rapports d'attraction d'une lettre sur d'autre, il s'agissait de rapports quelconques, indépendamment de telle courbe d'intégration. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une espèce de... Exactement comme on a vu entre le visible et l'énonçable. Si vous voulez, tout ce qu'on a dit pendant tout le trimestre sur les deux formes du savoir, c'est-à-dire l'entrelacement perpétuel du visible et l'énonçable, au point que, quoi qu'il diffère en nature, l'un ne cesse pas de susciter l'autre, de capturer l'autre. Foucault va dire exactement la même chose entre le pouvoir et le savoir. Là aussi, il y aura présupposition réciproque des deux. Mais un rapport de force n'est pas une relation de forme. Pour une raison très simple, c'est que le rapport de force, on verra ça l'année prochaine, le rapport de force est fondamentalement informel. Tandis que les courbes intégrales, elles définissent toujours des formes. Mais enfin, on pourra voir ça que très progressivement. Alors, l'essentiel, c'est que vous pressentiez. Moi, je fais toujours, je fais appel à votre pressentiment parce que c'est, comme tout ça, c'est des matières nouvelles, c'est... si ce n'était pas nouveau, je veux dire. Et il y a un mode de pressentiment philosophique qui, sans lequel vous ne comprenez pas.